Jidérian, Jidérian, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce second numéro consacré au RPG Day 2018. Alors dans ce numéro, Xavier et moi, on va parler du plus beau compliment que l'on a pu me faire au cours d'une partie, de la musique durant les parties, mais également du jeu qui a eu le plus d'impact sur moi durant les 12 derniers mois, etc., etc. Puisque vous allez voir, il y a un peu plus de questions durant ce podcast, mais également pas mal d'échanges avec Xavier, et notamment sa conclusion sur l'intérêt ou non d'écouter un rôliste qui parle de ses parties et de son expérience de jeu.
On va passer à la question numéro 16. Décrivez vos plans pour votre prochaine partie.
En fait, j'ai pas de plan. Enfin, j'ai pas de plan au sens où je sais pas quand est-ce que ce sera ma prochaine partie. Et probablement que ce sera une partie sans maître de jeu et avec une narration fortement partagée et où l'histoire va se créer en direct. Donc c'est un peu compliqué de dire ça. Ou bien, peut-être que ma prochaine partie sera un jeu de rôle solo, ou en fait, pareil, la partie va se créer en direct. Donc en fait, j'ai pas vraiment de plan. Parce qu'en fait, je pense que vous avez compris que j'aime pas préparer les parties avant, donc j'ai pas de plan.
Du coup, on va passer à la question numéro 17. Le meilleur compliment que l'on vous a fait durant une partie.
Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas c'est le dernier en date, et qui, je reconnais, m'a fait énormément plaisir parce que je m'attendais pas à ça. Ça a été lors de la convention RPGers cette année, où j'ai animé une partie du jeu de rôle Masque, donc sur des super-héros propulsés par l'apocalypse, et où en début de partie, je me suis amusé à dire aux joueurs qui étaient présents, de toute manière, vous inquiétez pas, c'est que la première partie d'une campagne qu'on va lancer ensemble. On a rigolé de ça en se disant, chaque année, on pourra se retrouver à RPGers pour faire la suite du scénario. Sauf que, à la fin de la partie, on s'est donné rendez-vous à la convention Grabuge de cette année pour justement faire la suite de ce scénario. Et ça, ça m'a fait hyper plaisir parce que j'ai vraiment passé un super bon moment sur ce jeu et sur cette partie. Et que les joueurs aient envie de se retrouver 2 mois plus tard pour faire la suite, ça m'a fait hyper plaisir. Après, comme dirait Zodiac, en tant que MJ à masque, j'ai rien foutu. Moi, j'étais mode spectateur de ce qu'il faisait et c'était génial ce qu'il faisait. Donc je reconnais que moi j'ai absolument rien fait, mais je prenais plaisir à voir leur histoire évoluer. Et ça a été le dernier plus beau compliment que j'ai eu, à savoir on se retrouve 2 mois plus tard, sachant que tout le monde vient d'horizons différents. Pourtant on se donne rendez-vous pour la convention pour faire la suite quoi.
On passe à la question numéro 18. L'art visuel qui inspire vos parties.
Alors, l'art visuel qui inspire mes parties, le comics. Le comics, parce que je fais beaucoup de jeux de super-héros, en tout cas Masque, et qu'effectivement, étant un gros lecteur de comics, je vais pas non plus me cacher derrière le fait de tout réinventer. Hein. Il y a des choses qui ont été géniales, qui ont été proposées par ailleurs. C'est clair que je réutilise certains éléments. Hein. Donc oui, l'art visuel qui m'inspire le plus pour mes parties en ce moment, c'est les comics. À une période, et je pense que vous l'avez compris, hein, les séries télé m'inspiraient beaucoup, notamment quand je faisais de l'appel de Cthulhu, mais beaucoup moins, puisque j'aurais plus la télé. Et le fait de regarder des séries et Netflix, c'est regarder la télé, hein, pour moi, je suis désolé les gars. Et comme je ne le fais pas, clairement, c'est les comics en ce moment.
Et des comics, on va prendre les deux grosses écuries, plus des comics DC Comics qui t'inspirent ou plus des comics Marvel qui t'inspirent? Attention, il va y avoir un choix décisif.
Décisif, j'en sais rien. DC.
À cause de quoi? De l'univers qu'il y a derrière?
Je sais pas. Je préfère DC, je préfère Batman. Je préfère Batman à Iron Man, par exemple. J'apprécie Iron Man, j'adore Spider-Man, qui est pourtant dans l'écurie adverse. Hein. Mais non, j'adore Batman, j'adore la Justice League, en tout cas les comics, sauf le Rebirth. J'ai découvert, sur un conseil que j'aurais jamais cru que j'allais suivre, Aquaman, et j'ai adoré les histoires qui avaient été développées par Aquaman, toujours pareil, avant le Rebirth. Les Teen Titans, enfin non, enfin, ouais, pour, enfin, DC évidemment pour moi.
Question numéro 19, la musique qui inspire vos parties.
Je jouais beaucoup en musique, c'est vrai. À une période, je jouais beaucoup en musique. Toujours pareil, hein, l'appel de Cthulhu a été une campagne sur laquelle j'avais mis le paquet. Mais oui, non, je jouais beaucoup de musique à l'intérieur. Alors, une qui inspire plus, je pourrais pas le dire. En tout cas, le conseil que je pourrais donner, c'est de mettre des ambiances musicales à plus que des choses où il y a des paroles. Parce que le fait qu'il y ait des paroles, ça peut largement déconcentrer. Là où une simple musique, en fait, est vachement plus inspirante. Après, de tête, là, comme ça, j'ai pas de noms qui me viennent. Je sais qu'il y avait un pianiste que j'adorais et j'utilisais beaucoup un de ses albums. Je mettrai probablement dans les commentaires ces références. Parce que c'était quelque chose qui était mélancolique, doux, tout en étant hyper intéressant. Et autrement, la musique classique aussi, que j'utilisais beaucoup. Parce que tu pouvais alterner entre des scènes plutôt mélancoliques, tristes, à des moments beaucoup plus, j'ai envie de dire, bourrins, quoi.
D'accord, donc tu es en train de dire, histoire de te donner un dilemme, que tu préférerais mettre de la Valkyrie de Wagner à Rammstein pendant un combat.
Ah bah oui, c'est clair. Ah là, enfin, pour moi, il n'y a même pas de dilemme, en fait. C'est évident. C'est évident.
Alors, on va passer à la question numéro 20. Quelle mécanique inspire votre jeu le plus?
Quelle mécanique? La mécanique quand tu échoues, il y a une conséquence. Alors, bien sûr, hein, vous m'avez vu venir avec mes gros sabots, c'est tiré du PBTA, notamment. En tout cas, qu'il a vraiment formalisé. Mais oui. Que toute action a une conséquence. Et même un échec a une conséquence. Ça, c'est une mécanique que je trouve... Enfin, une mécanique, ou en tout cas un principe que je trouve génial. C'est pas... on récompense le joueur quand il réussit, et puis quand il échoue, bon, allez, c'est pas grave. Il a échoué, mais bon, il peut recommencer. Non, s'il a échoué, il y a une conséquence. Et parce que c'est souvent beaucoup plus intéressant de jouer les conséquences suite à un échec que suite à une réussite, en fait. Donc ça, c'est le truc que je préfère.
D'accord. Un petit peu comme dans Matrix, quand on parle des causes et des conséquences.
Ouais, je me rappelle plus forcément ce que...
Lambert Wilson.
Ah ouais, non, mais...
Qui parle à Monica Bellucci. Et...
Ouais, mais ça, tu parles d'un film qui n'a jamais existé, donc forcément...
c'était le numéro 2.
Matrix, oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis.
Quand il dit, ma chère, causes et conséquences.
Non mais c'est vrai. Non mais si tu fais une action, en tout cas pour moi dans le jeu, c'est tu fais une action, tu échoues, il y a une conséquence quoi. Je suis désolé. C'est pas ah bon allez tu recommences. Non, t'as échoué, t'as une conséquence.
Comme une vie classique.
Oui, après il y a plein de situations où tu as le droit de réessayer, il y a pas de souci. Mais il faut que l'histoire avance donc voilà. Donc moi j'adore ce principe. Alors c'est pas une mécanique, mais j'adore ce principe de dire t'as échoué. Bah, t'assumes les conséquences derrière.
Question numéro 21. Quelle mécanique de dés vous plaît?
Putain, elles sont connes ces questions. Quelle mécanique de dés me plaît? J'en sais rien. J'apprécie pas des masses les dés dits explosifs ou quand tu fais un 6, tu relances et si ça fait un 6, tu relances et si tu fais un 6, ça relance. C'est... Non. Quelle mécanique de dés j'apprécie? Non,
pour un joker, hein, si tu...
Ouais, non, bah après, je vais dire les 2d6 et puis basta. Enfin, je reviens sur l'apocalypse, mais c'est suffisamment, ça donne suffisamment de scores différents pour être suffisamment intéressant. Donc après, tu peux mettre le panel que t'as envie d'échelon pour décrire la chose, mais au-delà de ça, ça se suffit, quoi. Et même un des 20, tu lances un des 20 et puis tu fais une échelle de résultats et puis basta. Enfin, ou alors celle que j'aime bien, c'est même avec le D6 et le fait de réussir très bien, ou le oui mais et non et, enfin ce genre de choses où il y a une graduation en fait en fonction du résultat, moi ça me plaît bien. Et chaque phase du dé a une conséquence et qui est de plus en plus positive, si tu vois, vers le haut, ou négative vers le bas. Voilà. Ça, c'est, je trouve ça intéressant comme chose.
Et à contrario, ça sera la question 22. Quelle mécanique sans dé vous plaît?
Donc, j'apprécie beaucoup le principe d'approbation de prosopopée, où en fonction des propositions et qui sont faites par les joueurs, on va les récompenser via un jeton, un coquillage, etc. Et moi, je trouve ça bien, je trouve ça élégant. On pourra discuter ce côté-là, comme on a pu le discuter dans le podcast sur la vie de l'absent, où effectivement, ça reste subjectif hein, d'apprécier ou pas la description qu'un joueur a fait. Mais moi, j'aime bien, je trouve ça élégant, je trouve ça plutôt cool. Et voilà, moi, ça me va bien, ce genre de système où on dit, c'est pas qu'on félicite l'autre, mais en tout cas on le remercie pour ce qu'il a décrit et on a trouvé ça cool. Voilà, à partir du moment où on cherche pas à faire plus loin, moi je trouve ça cool.
Question numéro 23, pour quel jeu gardez-vous l'espoir d'y rejouer?
Werewolf. J'adore ce jeu. J'ai fait une super campagne où je jouais un théurge, donc en gros le moins bourrin de tous les garous. Oui, j'ai pris le moins bourrin de tous les garons. Alors, sauf quand on est dans l'Umbra, où effectivement on est les plus puissants, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais j'adore ce jeu. Ce qui est chiant, c'est la mécanique, en fait. Enfin, c'est le système de résolution qui est chiant. Et j'ai la 20e, enfin, la version 20e anniversaire. J'ai les différentes versions qui ont existé, même après. Après, la mécanique et le système de résolution est tellement chiant que voilà. Que je sais pas si, j'ai envie d'y rejouer, franchement. Hein, parce que c'est vraiment du jeu de rôle, moi, ce que j'appelle du jeu de rôle décomplexé, quoi. Où tu peux jouer un bourrin, mais en assumant le fait d'être un bourrin, quoi. Et c'est cool. Mais vraiment, ce système de résolution est vraiment chiant, donc je sais pas. Je caresse l'espoir un jour de me dire, allez. On relance quelques parties, mais soit je changerai le système de résolution, soit je me ferai vraiment violence pour accepter de jouer avec, quoi.
Question numéro 24. Selon vous, quel jeu de rôle mériterait plus de reconnaissance?
Xavier, tu sais, c'est quoi?
Doctor Who.
Non, genre pas ou quoi, mais n'importe quoi.
C'est un tel univers, je comprends pas qu'il y ait pas de jeu de rôle dessus.
Non, mais si, il y a un jeu de rôle.
Ben voilà.
Si, il y a un jeu de rôle, mais non, c'est même...
Ça, c'est la prochaine liste, alors.
Non, mais toi, t'as pas écouté le podcast, en fait.
Hein? J'ai que commencé.
Non, ce podcast qu'on est en train de faire, tu l'as pas écouté. Parce que quel jeu mérite plus de reconnaissance? Les petites choses oubliées.
Oui, mais je sais.
Ben non, je sais pas, tu m'as dit Docteur Who.
Mais c'est normal, il faut que
je sais que tu vas parler Docteur Who, toi. Mais non, les petites choses oubliées, ça mérite vraiment et sincèrement une meilleure visibilité. Ce jeu est extraordinaire, je continue à le dire. Donc voilà, donc je vais militer jusqu'au bout, hein, mais ce jeu mérite une meilleure visibilité, il est extraordinaire. Voilà, c'est tout.
C'était quel jeu? Les petites choses oubliées, donc... Alors, on va passer à la question 25. Le jeu qui a eu un impact sur vous ces 12 derniers mois?
Libreté, qui était ma meilleure partie en 2017 à RPGers, et qui a continué à me donner des parties extraordinaires durant l'année 2018, notamment pour le podcast. Je fais beaucoup d'autopub, je m'aperçois quand même, je fais beaucoup de références à mon propre podcast, c'est absolument atroce, hein, mais désolé. Hein. Ouais, Libreté. Libreté, parce que le fait de jouer des enfants dans une cité perdue où il n'y a plus d'adultes, et où effectivement il y a de la cruauté entre eux, et aussi le fait d'être solidaire, m'a conduit à des scènes qui étaient vraiment super intenses. Ou bien ont été super étonnantes parce que un message mal lu a conduit à l'effondrement de la cité entière juste parce qu'un enfant a pas bien compris le message qu'on lui a passé, quoi. Et ce jeu, enfin oui, Libreté a été vraiment, durant ces 12 derniers mois, le jeu qui m'a produit les parties les plus intenses, vraiment.
Question numéro 26, votre ambition rôlistique pour les 12 prochains mois ?
Mon ambition rôlistique, jouer plus, monter une nouvelle table de jeu. Ça, c'est en cours. J'espère qu'on arrivera à se trouver, à trouver la bonne dynamique ensemble, à pouvoir jouer plus souvent. L'objectif, c'est d'arriver à jouer deux fois par mois ou au moins toutes les trois semaines et de tester plein de jeux propulsés par l'Apocalypse sur quelques séances. Et donc ça, c'est l'ambition. Est-ce que j'y arriverai ? On se verra dans un an et je vous dirai si j'y suis parvenu.
12 mois, c'est quand même assez long. Il y a plein de choses à faire, je pense. Question numéro 27. Partager une bonne partie en ligne ou un stream ?
Je vais recommander à ce moment-là, non, pas mes propres parties, non, je vois ton grand sourire, non, je vais pas faire de l'autopromotion, parce qu'en plus j'en ai fait qu'une pour l'instant, donc non, le podcast de Volsung 2D6 plus cool, alors oui, il fait des jeux propulsés par l'Apocalypse la plupart du temps, mais même s'il est un peu cabotin et prend un peu de place dans son podcast, c'est son podcast aussi, donc bon, il fait ce qu'il veut. Mais non, je recommande ça parce que ça permet de voir et de tester. Et en ce moment, en plus, ils testent des choses qui sont en version alpha, donc hyper loin du commerce. Et ça donne pourtant des bonnes idées de ce que ça pourrait devenir. Donc non, moi je vous partagerai et en tout cas recommanderai d'aller voir ce que fait Volsung parce qu'il fait ça super bien.
Question numéro 28. Partagez une chose inspirante pour laquelle vous avez de la gratitude.
Alors la question est assez difficile en fait, même si je pense que on attend de moi le fait de citer, je ne sais pas, des artistes, une BD, un roman ou je ne sais quoi encore. Je reconnais que je sais pas trop quoi répondre là. J'aurais bien envie de prendre une question bonus là, ou alors je vais détourner un peu la question. Et ce qui m'inspire en JDR en ce moment, c'est plutôt toutes les initiatives qui ont pour objectif d'être les plus incluantes possibles. Alors je pense forcément à la queervention, mais également certaines initiatives comme les lapins marteaux et l'utilisation du terme joueuse dans leurs ouvrages. Je trouve ça super inspirant parce qu'en fait, ça permet de montrer d'une part la diversité, bien évidemment, du milieu rôliste, qui n'est qu'un reflet de la société. Et en fait, je trouve ça super intéressant de voir, de voir que il y a plein de personnes qui se réunissent pour montrer toute cette diversité. Alors, je sais que c'est peut-être pas la réponse attendue à cette question, mais pour moi, je trouve ça super inspirant parce que ça permet de réfléchir à toute notre éducation, à ce qui fait qui l'on est, comment on pense, et ça nous permet de nous réinterroger sur nous et qui finalement s'avère être parfois des constructions qu'il faut déconstruire justement. Donc bon, je vais rester sur cette idée que pour moi les choses les plus inspirantes en ce moment, c'est toute cette démarche d'inclusivité dans le milieu.
Question numéro 29. Partagez une amitié que vous devez au JDR.
Alors, une bonne partie de mes amis, en fait, viennent du milieu du jeu de rôle, en fait. Donc en parler d'une, c'est un peu compliqué. Ce que moi, j'appelle ma table historique, Vincent, Jérémy, Flo, Guillaume, font partie des amitiés que j'ai nouées grâce au jeu de rôle, en fait. Et il y en a plein, hein. Si je les cite tous, après, ça va les énerver, quoi. Mais bon, enfin, surtout, j'en oublie un, quoi. Mais bon, Romuald, etc., ils font partie de la bande, et voilà. Donc moi, le jeu de rôle m'a apporté une bonne partie de mes amis, quoi. J'ai une première partie qui vient de mes études, et l'autre partie vient du jeu de rôle, hein.
Et à contrario, il y a eu des amitiés qui se sont brisées à cause des JDR?
À cause du jeu de rôle? c'est pas une question, ça. On est d'accord, c'est toi qui pose la question.
C'est moi qui pose la question, en effet.
Une amitié qui se brise à cause du jeu de rôle. Oui, parce qu'en fait, Parce que tout à l'heure, tu parlais du fait de... est-ce que c'est compliqué, effectivement, quand t'es en insécurité émotionnelle, de quitter une partie? Et je te réponds oui, c'est compliqué à faire. Mais c'est aussi compliqué à avoir un ami à sa table qui est un chieur en jeu de rôle. C'est hyper compliqué. Parce que, quelque part, c'est quand même un ami. Mais le fait qu'il t'embête sur, durant tes parties, sur des points de règles, et à chaque partie, au bout d'un moment, ça devient lourd, en fait. Donc oui, moi, ça m'est arrivé, effectivement, entre autres, c'est pas que le jeu de rôle, soyons clairs, mais d'avoir, en tout cas, de prendre de la distance avec un ami, en partie à cause du jeu de rôle. Alors, c'est qu'un des facteurs, c'est pas le facteur, mais moi, ça m'est arrivé, en tout cas.
Okay. Question numéro 30. Partagez quelque chose que vous avez appris en jouant votre personnage.
Waouh, alors je suis très peu joueur, donc c'est hyper compliqué.
Peut-être en jouant le maître de jeu.
Ah ouais, sur les maîtres de jeu. Justement, comme je disais, j'avais une campagne sur l'appel de Cthulhu qui était basée sur le fait de faire visiter la France entière aux personnages. Et donc, ça m'a permis d'aller regarder dans les villes et les régions les mythes et légendes de chaque coin que j'allais faire visiter aux personnages, quoi. Donc, ça m'a appris plein de mythes et légendes et de les mettre en scène, ou en tout cas, d'utiliser le terreau de base qui était ce mythe pour le transformer à la sauce actuelle, en fait. Mais donc ouais, ça c'était, alors c'était pas en tant que joueur parce que c'était en tant que maître de jeu, mais effectivement ça m'a appris certains mythes régionaux que je ne connaissais pas et qui étaient bien fun.
Last but not least, question numéro 31. Partagez pourquoi vous participez à RPG A Day.
Là, ça pourrait répondre à la question sur la gratitude que je peux avoir envers quelque chose. Parce qu'en fait, le RPG A Day 2017 a été en fait le début de l'aventure du podcast. Et donc en fait, je participe à celui-là, même si je le fais avec du retard. Mais parce qu'en fait, c'est quand même par ça que ça a commencé, le podcast. Et donc je me dis quand même que c'est quand même un événement qui est mondial. Alors effectivement que je prends avec du retard maintenant, mais auquel je trouve qu'il est normal de rendre hommage en répondant aux questions de l'année, parce que c'est ça qui a été le début de cette aventure, quoi. Et du fait de rencontrer plein de personnes différentes, d'avoir des conseils de plein de personnes sur l'évolution du podcast, etc. Donc ça me semblait naturel de reparticiper à cette année. Alors d'une manière un peu différente, parce que j'ai pas fait une vidéo par jour ce coup-ci, mais un seul podcast, et en ta compagnie, justement. Mais ça me semblait naturel de revenir dessus parce que c'était il y a que un an et que c'était aussi le début de tout, en fait.
Et je vais me permettre une question supplémentaire. Qu'est-ce qui te pousse à être un maître de jeu plutôt que personnage dans le RPG?
Alors, c'est simple. Alors, je sais que ce que je veux dire est absolument atroce. Hein. Je préviens. Hein, âme sensible, s'abstenir. Parce qu'en fait, quand je suis joueur, je m'emmerde. Enfin, je sais que c'est brut de décoffrage, hein, mais en fait, si, alors il faut être plus précis. C'est surtout quand la narration n'est pas partagée et que je me retrouve dans un système dit traditionnel, je m'embête. Mais vraiment. Et donc c'est pour ça que je suis rarement joueur. Je le suis très ponctuellement pour faire plaisir et aussi parce que des amis sont maîtres de jeu et voilà. Mais de manière globale, très franchement, sur un jeu traditionnel, je préfère ne pas être joueur parce que je sais que je vais m'embêter. Là où, je prêche pour ma paroisse, hein, mais je pense, même si je l'ai pas suffisamment testé, que sur des jeux propulsés par l'apocalypse, je serais capable de prendre mon pied en tant que joueur. Parce que même s'il y a un fil conducteur, tout n'est pas scripté. Et ce que tu vas faire aura des conséquences, aura des impacts sur l'histoire. Bah, tu seras surpris par l'histoire, le maître de jeu aussi. Et donc, du fait d'avoir un rééquilibrage de l'autorité sur la fiction, je pense que je prendrais plus mon pied. Enfin, je pourrais prendre plus mon pied en tant que joueur sur de l'apocalypse que sur autre chose, quoi. Mais c'est pour ça que je suis plus souvent maître de jeu que joueur, parce qu'autrement, je m'embête.
Et du coup, s'il y a plusieurs maîtres de jeu autour d'une table, ça se joue à l'ego, ça se joue au dé, ou ça se joue à le premier qui tombe?
Non, c'est sur celui qui propose la partie, c'est tout. C'est régulier d'avoir plusieurs maîtres de jeu à table. Hein. Là, à RPGR, c'est sur la table de masque, j'avais 4 joueurs qui étaient 4 maîtres de jeu. Mais on est des joueurs aussi, je veux dire, c'est pas un problème. Et c'est pas un souci. Mais c'est vrai que ça peut être angoissant quand tu débutes justement et que tu deviens maître de jeu, de te dire à ma table j'ai que des maîtres de jeu. Ça peut être angoissant parce que moi je l'ai vécu ça. Et puis en fait tu t'aperçois que les maîtres de jeu en boîte maîtres de jeu ils sont joueurs aussi et qu'en fait tu peux faire ce qu'ils font eux et qu'ils ont beau avoir de l'expérience, ils suivent les mêmes fils que ce que tu peux proposer quoi.
Puis c'est bien aussi qu'il y ait quand tu sois nouveau là-dedans, je pense. Ça apporte un sang neuf et une vision différente de.
Ah oui, en général, c'est souvent assez radical, en effet. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve. T'as d'autres questions qui t'intéressent sur les subsidiaires ou pas? Parce qu'on peut, on peut se finir les subsidiaires si tu veux. Hein.
À quand un jeu de rôle sur Doctor Who? Il faut encore que tu apprennes tout l'univers, mais à quand? Si tu veux, question subsidiaire.
Je pense que Joker.
Ouais. Non, il n'y a pas de Joker.
Non, mais c'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est ce que je suis incapable. Enfin, je me sens incapable de faire jouer un jeu à licence en fait. Donc, un jeu qui est tiré d'une licence, donc du Doctor Who, du Star Wars, du One Ring, du comment ça s'appelle, du Seigneur des Anneaux, etc. Parce que parce qu'en fait, je maîtrise pas suffisamment l'univers, les romans ou les films ou les machins, et qu'en fait, tu peux très rapidement te trouver avec une vision qui est pas celle qui est écrite ou décrite, et tu peux te retrouver avec des joueurs qui, eux, connaissant parfaitement ces univers, bah, peuvent très vite te casser les pieds avec « Ah oui, mais dans la série, c'est pas passé comme ça, et c'est pas si... » Et non, je supporterai pas. Donc voilà, donc je suis incapable de faire jouer un jeu à licence parce que je maîtrisais pas suffisamment le truc. Donc Doctor Who ou autre, je pense que ça sera jamais de la vie. Même si t'as des joueurs qui sont hyper bienveillants, hein, moi ma table habituelle était complètement ok sur le fait que je puisse proposer du Seigneur des Anneaux en ne maîtrisant absolument pas le Seigneur des Anneaux, en disant bah, c'est ta vision du truc et puis on s'en fout quoi. Mais même je me dis, c'est trop compliqué. Mais ça, c'est ma vision à moi. Donc, c'est moi qui me mets des barrières là où personne m'en met. Hein. Mais, voilà. J'ai un blocage psychologique sur ça.
Ok.
Donc, ben, on a fini avec les questions principales. Il y a des questions subsidiaires, mais bon, on n'a pas tellement joué les coups des jokers, donc on va pas les utiliser pour pas faire durer plus le podcast. Alors, merci Xavier d'avoir joué le jeu.
Merci de m'avoir permis de participer.
Et alors, puisque le postulat de base était quand même de savoir le fait que quelqu'un, qu'un rôliste raconte à un autre rôliste ses parties, c'est chiant. Est-ce que quand un rôliste raconte à quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de rôle, est-ce que c'est aussi chiant ou pas?
Non, c'est intéressant parce que ça permet de découvrir tout un univers, en tout cas de mettre un premier pas dedans. Et de voir que c'est beaucoup plus riche que ce à quoi on peut s'attendre, quand tu parles tout à l'heure, par exemple, des descriptions ou de tous les petits éléments. Ou aussi, c'est intéressant parce que ça montre que c'est pas quelque chose, au final, d'élitiste ou de fermé, que tout le monde, je pense, peut débuter là-dedans, avec chacun sa personnalité. Il va pas y avoir de personnes qui ont plus ou moins d'imagination. Comme tu dis, il y a un maître de jeu, il y a des barrières, donc c'est quelque chose qui, je ne pensais pas, était aussi cadré, et pourtant tout aussi ouvert. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de super intéressant à découvrir à travers ces 32 questions pour l'occasion.
Bon, ben merci pour ce retour. Ben, on espère en tout cas que ça vous aura plu, hein, que même les questions que on a pu poser en plus, etc., vous auront intéressé. Bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à le commenter, à le partager si vous voulez. Et puis, bah, on vous dit à bientôt pour un prochain podcast. Bye bye tout le monde.
Bye.
Et voilà, le RPG Day 2018 est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris plein de choses, ou en tout cas que cela vous aura permis d'engager certaines discussions. Moi, je tenais à remercier encore une fois Xavier, parce que ça a été un vrai plaisir que de faire ce podcast avec lui, d'avoir pu partager et échanger sur le jeu de rôle. J'espère que ça vous aura aussi plu, que ce dispositif aura eu un intérêt pour vous. Et puis moi, ben, je vous dis à très bientôt, très probablement pour un prochain retour d'XP. Et puis, d'ici là, ben, portez-vous bien en JDRI. Bye bye!